Radio Campus.
De toute façon, il va falloir fouiller leur passé à fond. Politique ? Politique, sexuelle, financière.
88.3.
Passez-moi au peigne fin tous les fichiers des gauchistes.
Quel bordel ça va faire en ville.
Dans toute la France même.
Radio Campus 88.3.
Le temps est venu de fêter nos différences.
Oui, mais peut-être pas en public.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour, bonjour, il est midi sur Radio Campus Orléans et vous écoutez Écoute ta fac. Je suis avec Marine en studio,
bonjour.
Ma nouvelle super collègue.
Voilà, toujours ensemble maintenant.
Yes, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va, ouais. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale, je sais pas si c'est la journée mondiale, mais c'est la fête des marques. Des personnes qui s'appellent Marc.
Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout.
Du coup, bonne fête à tous les Marc.
J'en connais pas, mais bonne fête.
Moi non plus, mais bon. Pour le programme, on accueille aujourd'hui des étudiantes et des membres de l'association Apport, une association qui a pour but d'aider les orphelins en Roumanie, pour une interview avec Marine et moi. Ensuite, hier, Megan Froissart est venue à la radio pour parler du projet Affranchi, un projet qui met en avant les femmes dans les domaines de la culture et l'art. On découvrira ça dans la deuxième partie de l'émission. Et peut-être, s'il nous reste un peu de temps, on fera bien sûr le jeu des nés et des morts.
J'espère qu'il y aura du temps.
Moi aussi. Et bien sûr, toujours la programmation musicale de Radio Campus Orléans 88.3. Voici The Source de Sun Atlas. Bonne écoute!
We'll be right back.
c'était ça. Que quand je se mettais, j'étais ça. Je voyais que je fais. Mais j'ai ça quand de m'aimer, de je paie ça tout. Mais qui est ça, je me égare. So ushin tanto. Te fekiro, basha, saka, jessa mawa. Je te sens. Il faut qu'il y la chose d'un bain. T'es comme ma main. Je te sens. Le kika, baisse les gants. Je te sens. Le fiki amo. Bitte aizo, show siki. Le je sens.
Thank you.
Toujours sur Écoute à Fac, on écoutait Sirène de ARWYF. Je sais pas, ce nom il est bizarre. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité. Je vous laisse avec ce petit jingle.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta Fac.
Écoute ta Fac.
Et pour aujourd'hui, nous accueillons l'association APOR, qui veut dire aide pour les orphelins romains ou roumains, une association qui travaille avec plusieurs écoles de psychomotricité française dans l'institut de formation à Orléans. Nous accueillons du coup, si je me rappelle bien des prénoms, Inès, Eva et de Clémence. Très bien. Bah bonjour.
Bonjour.
Salut. Comment allez-vous?
Bah un peu stressée, et toi?
Un peu stressée, mais non, pas
non,
du
on
tout.
Non, on va bien, on est
content. Ouais, on va bien.
Merci pour l'invitation, en tout cas.
Bien sûr, avec plaisir. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre association? De quoi elle s'agit? Quelles sont vos missions?
Du coup, l'association APOR, donc c'est une association qui a été fondée dans les années 2000 par des étudiants en psychomotricité de Toulouse. Et du coup, l'objectif qui était celui de l'époque, mais qui est encore celui actuel, c'est de venir en aide aux enfants porteurs de handicap en Roumanie, puisque c'est des enfants qui n'ont pas forcément les continuités de soins pendant les vacances scolaires et qui ont moins de moyens qu'en France. Et du coup, à l'époque, c'était uniquement Toulouse qui participait. Et maintenant, depuis 2 ans, l'école de psychomotricité d'Orléans, donc les étudiants peuvent participer également à ce projet. Donc voilà, nous, on part, on va pas aider des enfants. Nous, ça va être plutôt des adolescents et des adultes, parce que ça s'est un petit peu généralisé à d'autres populations. Il y a même été question à un moment d'y intégrer un EHPAD, mais on n'a toujours pas eu l'occasion. Donc voilà.
Et comment est née cette idée d'aider les gens?
Alors en fait, ça, enfin notre idée à nous ou l'idée de l'apport?
Les deux.
Ok. Bah pour moi perso, c'est genre naturel parce que c'est en lien avec notre métier d'aider les autres, ouais. Et ça va nous apporter aussi une expérience pré-professionnelle et c'est vraiment genre quelque chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie.
Ouais.
Donc perso, c'est pour ça, après les filles.
Bah, moi, c'était aussi l'envie de partir et faire un voyage humanitaire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir le faire. Et là, c'était vraiment l'occasion. Et puis après, comme l'a dit Inès aussi, c'est tout ce que ça va nous apporter. Et après, plus tard aussi, au sein de notre métier, ça va être une expérience qui sera super riche et on va pouvoir vraiment s'appuyer sur ça après pour commencer plus tard.
Très bien. Et... est-ce que t'as...
Ah non, j'ai rien rajouté de plus, la même chose. Surtout faire un voyage humanitaire, c'était, pour ma part, un truc que je voulais vraiment faire dans le cadre de mes études pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin, donc rien à rajouter.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que je partage les objectifs personnels, mais par rapport à l'association, l'idée, du coup, de base... c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais la Roumanie faisait partie du bloc soviétique. Mmh. Et donc, il y a eu énormément de lois pendant la guerre froide qui sont passées autour de l'institutionnalisation de l'orphelinat. C'est-à-dire que les femmes devaient avoir beaucoup d'enfants. Ça pouvait être très fréquent qu'elles les abandonnent.
Ouais.
Et donc, du coup, on se retrouvait avec des enfants, parfois avec des handicaps, qui étaient abandonnés dans des endroits laissés à l'abandon pour mourir.
Ouais.
Et du coup, en fait, sorti de ce bloc soviétique à la fin de la guerre froide, il se trouve que le pays a arrêté ses lois, mais en fait, il restait encore des orphelinats et encore des enfants dans ces situations-là. Et donc, dans les années 2000, ce qui était encore assez récent, on va dire que la fin du bloc soviétique, c'était les années 90, donc ça faisait 10 ans. Et donc, dans les années 2000, il restait encore des enfants dans ces cas-là.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu l'objectif de base sur lequel s'est basée l'association APOR pour se créer et ensuite partir.
C'est ça. Et puis là aussi, actuellement, même si du coup, cette loi elle a été abolie, il y a quand même le contexte du coup de la guerre en Ukraine qui est quand même vachement proche de la Roumanie. Et donc... on pense très certainement qu'il y aura des personnes qui ont fui la guerre.
Certainement.
Oui, bah, parce que la Roumanie est un pays limitrophe de l'Ukraine. Voilà.
Et en quoi consistent les aides que propose l'association ou que vous proposez ?
Du coup, les aides qu'on fait, en fait, c'est faire des accompagnements envers des personnes en situation de handicap. Donc, il y a plusieurs aides qui sont proposées. Mm-hmm. Donc, c'est comme par exemple stimuler les enfants afin de préserver leur capacité cognitive. Okay. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une spécialité de la psychomotricité. À faire avec, parce qu'on est basé sur tout ce qui est sensoriel, ça crée les expériences, le développement, tout ça. Après, il y a aussi apporter du matériel adapté. Là, par exemple, cette année, on va apporter des couverts qui sont plus gros au niveau des manches. Parce que, par exemple, les personnes qui ont des hyposensibilités, donc les personnes atteintes d'autisme, ils peuvent ne pas sentir justement les manches de ces couverts.
Le poids des manches,
oui. Oui, c'est ça. Et du coup, ça va les aider aussi à manger.
Et le but, c'est aussi de pouvoir solliciter les capacités motrices des enfants, par exemple en créant des parcours moteurs, en utilisant aussi juste simplement des jeux de balles, des jeux qui mettent en jeu tout le corps, pour pouvoir aussi stimuler... le développement, nous, dans notre cas, ça ne sera pas des enfants, mais le développement des adolescents, le développement moteur.
Et c'est très important de préciser, pour éviter qu'il y ait un amalgame, que nous, on ne pratique pas de la psychomotricité puisque nous ne sommes pas diplômés. Okay. Donc ça, c'est très important parce que...
Sinon, on va avoir des problèmes.
On peut avoir des problèmes après. Et donc, c'est très important de préciser ça. Nous, on vient juste appliquer des choses qu'on a apprises sur des thérapies sensorielles et des thérapies motrices, sans dire que nous, on pratique la psychomotricité. C'est très important de préciser.
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est hyper varié parce que ça peut aller des activités justement manuelles, comme par de la danse avec de l'expression corporelle, parce qu'il y aura aussi du coup la barrière du langage. Donc la danse, ça parle à tout le monde et du coup, ça serait pratique.
Et du coup, quelles sont les personnes qui vont appliquer cette psychomotricité, si ce n'est pas vous qui le faites ?
Alors, en fait, il n'y a personne qui va appliquer la psychomotricité. Nous, la seule chose qu'on va faire, c'est venir appliquer des choses qu'on a vues en cours qui sont des choses qu'on apprend en psychomotricité. Mm-hmm. C'est juste la nuance de, comme on n'est pas diplômé, on n'a pas le diplôme, on ne peut pas prétendre de dire qu'on fait de la psychomotricité. On fait des choses autour de la psychomotricité, en lien. Mais pas... on va être toute seule là-bas, il n'y aura pas de psychomotricien, on va être juste là avec des traducteurs, voilà.
C'est ça.
On se débrouille un peu, quoi, sur le sur place.
On va vraiment partir à quatre, seuls, dans cette ville en Roumanie, et c'est nous qui allons créer les activités, tout ça proposé. Donc ça sera des approches psychomotrices, mais on ne peut pas dire que c'est... de la psychomotricité.
D'accord. Et c'est aussi de mettre en œuvre ce qu'on a appris en cours, les pratiques, tout ce qu'on apprend en TP. C'est surtout aussi de pouvoir réutiliser ça sur place, quoi.
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi la ville de Brad ?
Alors...
Une raison particulière ?
Le prix des billets d'avion.
Les dates aussi.
Les dates.
On a eu le choix de partir sur plusieurs dates, sur tout l'été. Et nous, on part de fin juin à début juillet. En sachant que, comme il y a les Jeux Olympiques cet été à Paris, on voulait éviter de partir en plein milieu du mois de juillet aussi. Bah, c'est vrai, par rapport au prix. Mais du coup, ça a fait que sur ces dates-là, nous, on a été tout de suite décidés à aller à Brad, en fait.
Et puis après, il faut savoir que du coup, il y avait trois villes de destination. Et nous, on voulait partir toutes les quatre. L'organisation est un peu spéciale cette année parce qu'en fait, les groupes, ils les divisent. Et nous, on voulait vraiment pas partir par deux parce qu'à partir dans un pays où ils parlent ni français, ni anglais, ni rien, à deux personnes, c'est pas assez. Et du coup, Brad, c'était la seule ville dans laquelle on pouvait aller qui nous permettait de partir tout ensemble dans un créneau de temps qui nous intéressait le plus. Ouais. Donc voilà.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les autres écoles de France, il y a, par exemple, à Toulouse, je crois, ils partent à 10 étudiants. Et donc, forcément, ils sont répartis sur plusieurs sites. Mais nous, comme on est une petite équipe, on n'avait pas trop envie d'être répartis dans un pays qu'on ne connaît pas, tout ça. Comme ça, on a un petit peu des choses sécures.
C'est ça.
Selon quels critères de sélection les adolescents et les adultes seront choisis, vu qu'ils ont tous un handicap?
C'est pas nous qui les choisissons. Mm-hmm. En fait, ils viennent d'un foyer éducatif et d'une structure de santé qui n'est pas du tout de notre qui n'est pas de notre sort. Mais par contre, ce sera plus des pathologies autour de pour être très proposer des exemples parce que je pense que ça peut être compliqué à comprendre, des pathologies type du polyhandicap, tout ce qui est autour de la trisomie 21, la déficience intellectuelle, l'autisme. Donc voilà, des pathologies un peu handicapantes dans la vie de tous les jours quand même. Voilà. Oula.
Alors, on peut continuer. Hein.
Est-ce qu'il y aura une contribution à faire en plus par les participants? Vous prenez vraiment tout en charge?
Justement, on essaie de que tout soit pris en charge. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que du coup, il y a déjà une grosse somme qui est reversée à l'association Apport pour tout ce qui est
les assurances,
oui. Tout ça. Et nous, là, on essaie vraiment que nos frais de déplacement, que par exemple la nuit qu'on va passer à Beauvais parce que notre avion est à 6h du matin, mmh. Soient pris en charge. Après, s'il faut faire une participation, on participera. Mais là, on essaie de récolter le maximum pour pouvoir aussi essayer de laisser un petit peu de fonds pour l'équipe de l'année prochaine parce que ça aide vachement pour commencer les projets. Par exemple, oui. Nous, on a commencé par le calendrier de l'Avent. Et ça nous a beaucoup aidé de ne pas mettre notre argent personnel pour acheter les choses justement prévues dans ce calendrier de l'Avent.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer des collectes de fonds qui marchent mieux que d'autres?
Alors, je suis un peu la spécialiste de ça parce que du coup, j'ai fait pas mal de demandes dans pas mal d'endroits différents. Nous, on a eu pas mal d'argent de la part de la ville d'Orléans, la bourse Projet Jeune, je pense que vous connaissez ici.
On remercie d'ailleurs.
Non, du tout. Bon, on les remercie en tout cas. Le monsieur qui s'occupe des dossiers est vraiment super, super sympa. Les élus, super. Franchement, la présentation s'est très bien passée. Après, on a demandé également à des associations. Moi, je suis de la ville de Blois. Donc, j'ai demandé au Rotary Club de Blois. Ils nous ont reversé pas mal d'argent. Et il y a une autre association, le Lons Club. Et après, on a fait une dernière demande au Crous récemment. Une demande au Crous qui a été validée à la commission d'avril, je crois, ou mars. Donc voilà. Et après, bien sûr, pour la collecte de fonds, on fait tout ce qui est...
J'ai vu beaucoup de ventes.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
On essaie de faire des actions à peu près tous les mois. Et on essaie de varier entre des ventes de gâteaux, de sucrés salés, ou alors des fois on a des idées un petit peu plus... par exemple, là, on a fait une vente de chaussettes pour les étudiants en psychomotricité, parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir de belles chaussettes, parce que du coup, en TP, on est souvent en chaussettes. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché.
On a fait aussi la vente pour la fête des grands-mères, on a fait un kit de super mamie.
Oui.
Cette action a un peu moins marché que les chaussettes, mais dedans, c'était tout ce qui était pour la beauté, tout ça. Et ce qui est à venir, c'est une super tombola. Donc, venez sur notre Instagram.
Elle se déroulera quand, la tombola?
Alors, en fait, c'est un système de tickets à gratter, du coup. On précommande via notre Instagram. Et ensuite, on distribue les tickets à la personne qui gratte. Et s'il y a le lot, on lui prend ses coordonnées pour ensuite lui redistribuer.
C'était le Instagram.
Ah oui, le truc essentiel, oui. C'est les psychomotes en Roumanie, du coup, mm-hmm. Le Instagram. Et on a une page Facebook aussi.
Qui s'appelle également les psychomotes en Roumanie.
C'est ça. Et du coup, pour... faire un peu se vendre la tombola. Y a des super lots, il y a une télé, il y a un synthétiseur, il y a un kit de sommelier qu'on remercie Erwan, du coup, de nous avoir donné gentiment.
Merci Erwan.
Des accessoires pour le sport aussi.
Ouais, il y a un banc de muscu, il y a un appareil pour faire les abdos.
Un appareil à raclette quand on a fait le sport aussi.
Très important. Des écouteurs aussi.
Des écouteurs sans fil, une enceinte Bluetooth. Des jeux de société, un carnet avec des crayons de couleur.
Ouais, du stylo.
Bref, il y a plein de trucs.
Ça plaît à tout le monde.
Donc,
on a essayé de diversifier au maximum. Ouais.
Vous espérez avoir quel impact sur la vie de ces adolescents, de ces adultes handicapés?
Moi, je pense que déjà, le but, c'est qu'ils puissent réutiliser ça après au quotidien. Et que moi, j'attends vraiment de voir qu'il y a un... J'espère qu'on va avoir un impact positif et de voir qu'on peut créer des sourires, qu'on peut apporter du positif au quotidien. Et j'espère aussi qu'eux, après, ils vont penser à ça plus tard. Et nous, on va repartir aussi avec ça... Plus tard, on va repenser à l'impact qu'on a eu. Quelque chose, en tout cas, qui leur serve et qui soit positif. Parce qu'il faut savoir qu'après, sur tout l'été, les autres... en fait, les autres étudiants vont s'enchaîner des différentes écoles de France et vont reprendre, en fait, la suite des actions qui ont été menées par les étudiants d'avant. Donc le but aussi, c'est de créer une continuité avec ce qui a déjà été créé.
Ouais, parce que nous, on n'est pas les premiers à aller là-bas. Il y a une équipe qui va avant. Donc ça, c'est un gros avantage, je pense, pour nous. Oui. Ça nous tranquillise un peu. Parce que clairement, on aura déjà des prises de notes sur comment ça s'est passé, comment sont telle ou telle personne. Et on pourra vraiment beaucoup plus s'adapter en fonction de ça.
Voilà. Ouais, puis moi, ce que j'espère aussi, c'est partager un peu tout ce qui est notre culture, la culture française en Roumanie, le saucisson, le pain, le fromage, tout ça. Enfin, ou même juste des valeurs un petit peu françaises. Et,
après, et ils sont... ils connaissent déjà la France parce qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui vont en Roumanie pour des études, donc...
Mais mieux ils en connaissent, mieux c'est.
Ouais, apportez votre petite touche aussi, comme c'est les autres. Vous avez évoqué beaucoup d'organisations, ça a l'air très complexe. Est-ce que vous avez rencontré des défis et quels sont-ils?
Je crois qu'on en a eu beaucoup.
La trop communication.
Vous les avez surmontés surtout.
Ah oui, on en a surmonté des trucs.
Oui, sinon on ne serait pas là aujourd'hui déjà.
Oui. On a eu on va dire, de tout type. Hein, au sein du groupe, la communication, c'est vrai, et puis l'investissement. Et puis même après, de façon générale, pour récolter les fonds, il faut de la créativité, il faut du temps, il faut préparer les choses, de l'investissement personnel. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, je pense.
Et puis, on a eu beaucoup de contretemps avec les dossiers administratifs pour les demandes de fonds, malheureusement. Mais ça se rattrape toujours. Mais disons que c'est vrai que ça peut prendre des soirées à se dire « Oh merde, j'ai pas tel ou tel document, faut que j'aille le redemander et tout. »
Après, je trouve ça a vachement renforcé l'équipe parce que, par exemple, il y avait une grosse difficulté, justement, c'était les fameux prix des billets d'avion. Et un soir, en rentrant d'une présentation qu'on avait fait à Inasso pour avoir des fonds, je vais sur le site de Ryanair, comme ça, et là, je vois quoi? Genre, grosse promo pour aller en Roumanie. La coïncidence de fou. Et donc, du coup, on avait tous cours très tôt le matin, mais je me suis retrouvée à 1h du matin à prendre les billets, à commander des billets d'avion, à demander 150 fois si j'avais bien écrit les prénoms.
Ouais, l'occasion à pas louper là.
Oui. Surtout des promos pour aller en Roumanie.
C'est vraiment.
C'est un peu incongru comme genre de situation. Quoi.
Oui. Comment vous voyez la pérennisation, l'évolution de votre projet dans les années à venir? Même s'il y a d'autres étudiants de d'autres villes.
Ça se pérennise déjà depuis 2018, puisqu'il y a des étudiants qui sont partis sur cette année-là. Et sur les années d'après, du coup. Il y a eu une petite coupure, je crois, au moment du Covid. Donc, ça, je pense que c'est comme partout. Et déjà, pour notre école, on aimerait bien que d'autres gens de première année, du coup, puisque c'est les deuxièmes années qui partent, on aimerait bien que les futures deuxièmes années puissent s'investir également. Il y en avait déjà qui étaient motivés, donc je pense que ça se fera. Et en termes de pérennisation, on vous avait dit, du coup, peut-être intégrer un EHPAD pour vraiment avoir tous les âges de la vie. En prise en charge, parce que je pense qu'il y a aussi des besoins dans ce domaine-là. Voilà.
Oui, du coup, après, pour que le projet continue, il faut savoir qu'à la rentrée, on fait une présentation, du coup, sur comment s'est déroulé notre projet, les difficultés rencontrées, justement.
Présentation ouverte à tout le campus, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Il y aura aussi une présentation dans un amphi, il me semble. Donc, il y aura vraiment... on va beaucoup présenter pour essayer de motiver le plus d'étudiants possible.
C'est nécessaire. Oui. Et du coup, comment peut-on aider si nos auditrices peuvent contribuer, aider, qu'est-ce qu'on peut faire?
On a une cagnotte en ligne.
Ouais, c'est ça. On a une cagnotte en ligne, du coup, qui est dispo sur notre Instagram, pareil.
Et Facebook aussi, je crois.
Et Facebook, c'est avec Lydia. C'est vraiment, il n'y a pas de don imposé comme certains sites. Vous pouvez donner 50 centimes, ça sera très bien. S'il y a plein de gens qui donnent 50 centimes, c'est cool. Après, il y a aussi nous soutenir dans nos événements. Donc là, la tombola, ça nous aiderait vraiment beaucoup. On va faire du porte-à-porte aussi. Si vous entendez des étudiantes toquer à votre porte, répondez.
Ouvrez la porte.
Et ouais, non, participez vraiment au projet et puis essayez d'en parler toute personne.
Et puis partager aussi, soutenir. Moi, je trouve que c'est aussi important de voir qu'on n'est pas toute seule et qu'il y a des gens qui voient aussi ce qu'on fait, qui soutiennent les projets.
Ouais, abonnez-vous et likez nos posts.
Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de followers sur Instagram. Donc,
allez, abonnez-vous.
Les psychomoteurs roumaniens, on rappelle.
Très bien. Et bah, merci beaucoup pour ce passage.
Merci
et
à vous.
Pour cette belle mission.
Bah, merci à vous de nous avoir invités. Ça fait quand même une très belle occasion de discuter.
Mais oui, merci beaucoup. Et encore merci à Erwan, du coup, sans qui cela ne serait pas arrivé.
Merci, on continue toujours avec de la musique. Voici Imagination Unlimited de Claudio Corona. Bizarre, non? Corona.
What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. It's dramatically new. It's the most tremendous new musical experience you can have. And now it's available for everyone.
Unlimited. Every kind of progress has a beginning, a starting point. And then someone has to move ahead and take the step that might make tomorrow better. But 50 years have brought us to the push button era. You get the idea? Are you ready? Machines and men. Its purpose? Move ahead and take the step that might make tomorrow better. Move ahead and take the step that might make tomorrow better. Multiply it a million times. Man will build his tomorrow with imagination unlimited. Sensational! Terrific! Be careful with statements like that. I said something wrong? Well, I just don't want you to get the idea that merely by adding a big speaker, you get high fidelity. None of that messy do-it-yourself stuff for me. Man will build his tomorrow with imagination unlimited. Imagination unlimited.
Come on.
midi 13h.
Écoute ta fac.
Tout de suite, je vous lance l'interview avec Mégane Froissart sur le projet Affranchi. Aujourd'hui, je suis avec Mégane Froissart, chargée de communication et des relations publiques pour la FRACAMA et Métiers Culture. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va super, et toi?
Très bien. Du coup, tu viens aujourd'hui pour parler du programme Affranchi, qui revient pour sa 3e édition. Un programme réservé aux femmes de tous champs culturels et artistiques qui seront encadrés par des professionnels qualifiés. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur le collectif HF Centre Val-de-Loire qui va reprendre le portage de ce programme?
Oui, bien sûr. Alors, le collectif HF, c'est une association qui s'est montée en 2016 dans le but donc de travailler sur les questions d'égalité entre femmes et hommes dans le secteur culturel et le milieu des arts. Parce qu'il est évident qu'il y a une grosse inégalité, comme dans tout le reste de la société, mais encore plus présente dans ce milieu. Voilà. Et depuis sa création, elles ont pu mener des études, des journées de formation, monter aussi des journées du matrimoine pour valoriser un peu les artistes et les créatrices en région.
Et quelles sont les motivations derrière ce transfert de responsabilité?
Alors, nous, donc à la base, le projet est porté par un métier culture, donc qui agit là plutôt sur la formation, les compétences, les savoir-faire, du secteur culturel, donc professionnel. On est sur un coordinateur qui est un homme en fait qui coordonne le dispositif, même si ça se passe très très bien. Mais on avait aussi envie, il y a une sorte de logique du collectif HF qui est présent, qui fait beaucoup d'actions, et que ce projet d'affranchi, même si on l'adore et que il y a une forme de logique en fait que HF reprenne ce projet.
Ok, c'est une question de principe.
Exactement, ouais. C'est ça, voilà.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le programme Affranchi?
Oui, bien sûr. Alors, le programme Affranchi, donc on est à la 3e édition. Mm-hmm. Donc concrètement, ça va être des duos qui vont être formés à partir donc d'une mentor et d'une mentorée. Il y en a 8 par an. On est sur un principe de transfert de compétences, de connaissances, de savoir-faire et aussi un objectif de donner confiance aussi aux jeunes femmes qui souhaitent s'inscrire en fait dans le secteur culturel. Donc ça se traduit par cette année ensemble, donc deux duos qui vont se rencontrer toutes les deux pour vraiment se soutenir, s'apporter des compétences, des connaissances et une forme d'épanouissement aussi. Donc autant du côté de la mentor que de la mentorée, c'est vraiment une relation forte qui va se fabriquer. Et donc il y a ces rendez-vous en binôme, il y a aussi des rendez-vous en collectif où là on va avoir des formations collectives sur le mentorat, sur la prise de confiance, sur l'ancrage. On va faire que ce groupe puisse développer en toute liberté et en toute puisse partager une énergie, une confiance ensemble. Et développer une sororité forte pour pouvoir affronter déjà le monde en général, le monde patriarcal, mais aussi le monde professionnel de la culture qui peut faire peur au premier abord. Donc avoir quelqu'un pour nous accompagner dans le développement de notre carrière et dans notre épanouissement, ça, c'est très très précieux. Oui. Et c'est vraiment l'objectif d'Affranchi.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences précédentes d'Affranchi, parce que là, 3e édition.
Ouais, enfin, à chaque fois, c'est vraiment des groupes incroyables avec des. En fait, au moment où on va postuler à Affranchi, donc on est soit mentor, soit mentoré. Souvent, on postule en tant que mentoré alors qu'on a largement les capacités d'être mentor. Mm-hmm. Ça, c'est toujours les questions de légitimité sur lesquelles on veut travailler d'ailleurs. Donc on postule dans l'objectif de vraiment faire un partage. Et au moment des candidatures, il y a un matching, ce qu'on appelle un matching. Donc on va trouver la mentor qui sera idéale pour la mentorer, inversement aussi. Mm-hmm. Et donc les deux premières éditions, on peut dire que tous ces matchings déjà ont été vraiment super.
Ouais.
Je pense qu'il y a très peu de très rares expériences négatives, mm-hmm. c'était plutôt très très positif. Et donc, voilà, on a eu ces fameux temps collectifs, donc de travail sur le mentorat, sur comment s'épanouir, et aussi des moments dans des espaces professionnels, donc par exemple au MAMA à Paris, ou au Printemps de Bourges, où là, on a un regroupement qu'on appelle le Womentorat, donc avec tous les autres programmes de mentorat nationaux et même internationaux. On en a un qui vient du Canada. Et j'ai oublié son nom.
C'est pas grave.
et donc on se rassemble et on fait se rassembler donc ces femmes pour faire du partage d'expériences, se faire un réseau. Il y a aussi c'est vraiment cette question de réseau en mm-hmm. fait. Et on le voit donc avec les deux premières éditions parce que elles continuent en fait de travailler ensemble. Elles continuent d'être même de former une relation hyper forte, même d'amitié professionnelle en fait. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi décrire les deux premières éditions. C'est quelque chose qui dure. Hein. C'est pas juste une année de mentor-mentoré avec une relation qui s'arrête tout de suite après affranchie. Pas du tout, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se crée sur le long terme avec un réseau de femmes qui vont s'entraider dans leur quotidien.
Et voilà. Vous vous basez sur quels critères pour faire ce matching de mentor et mentoré?
Alors, le matching, dans l'idée, on n'a pas... c'est pas une fiche de poste à remplir.
Okay.
Vraiment pas. En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment une jeune femme qui veut s'insérer dans le secteur et une autre femme avec plus d'expérience qui est prête à la partager.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a pas de... on n'est pas sur « Ah, elle a fait ça précisément, donc ça maturera. » C'est plutôt « Ok, là, on a une mentor une mentorée qui a besoin d'être une meilleure metteuse en scène ou de monter en termes de poste, de prendre des postes à responsabilité, par exemple. Et si on a une mentor en face qui a le même type d'expérience ou qui a quelque chose qui pourrait vraiment coller avec ses besoins, hop, on fait un matching, on propose bien sûr aux filles de se rencontrer une première fois pour ensuite qu'elle forme ce duo. Parfois, c'est un peu un crève-cœur parce qu'on va avoir deux mentorées et une mentor et elle va devoir faire un choix. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas facile.
Okay.
Surtout qu'on n'est vraiment pas sur des critères d'une embauche en CDI avec on veut ça, ça, ça comme compétence, on veut 3 ans d'expérience. Mmh. C'est vraiment pas ça. On joue vraiment sur une question, vraiment la question de l'humaine,
oui.
là-dessus.
Et voilà. Pourquoi un tel programme est-il nécessaire dans le secteur culturel d'aujourd'hui?
Le montage en fait du projet Affranchi, toute cette idée a vu le jour suite à une enquête menée par HF en 2019, il me semble, où le constat était que plus on avançait dans les postes à responsabilité, donc directeur, directrice, programmatrice, des postes qu'on dit à responsabilité, il y avait de moins en moins de femmes. Et il y en est de même pour dès qu'il y a une question de budget plus conséquent ou dès qu'on monte en fait dans les échelons, tout de suite il y a beaucoup moins de femmes. Dans le secteur culturel et surtout dans les musiques actuelles, d'ailleurs, on a vraiment un encore plus gros problème sur les musiques actuelles. C'est vraiment criant, quoi, avec des chiffres qui sont vraiment parfois qu'il faut frôler les 30% sur certaines choses. Donc, c'est vraiment il y a une réalité qu'on connaît hein, tous et toutes dans tous les domaines. Et la volonté d'Affranchi, c'est d'ailleurs d'abord de suivre tous ces idées magnifiques de d'autres programmes de mentorat et d'en former un en région centrale. Val de Loire, pour vraiment aider les femmes à s'insérer plus facilement. Et voilà comment est né le projet, en fait, avec une prise de conscience qui est déjà en nous pour plein de raisons sur les questions de société générale, encore plus sur le secteur culturel qui en a vraiment besoin.
Et comment se déroule le programme sur une année?
Concrètement, sur une année, On démarre en septembre. Les candidatures courent là cette année jusqu'au 10 mai. On fait le matching et ensuite on lance vraiment l'édition en septembre. Donc en septembre, il y a ces fameux 8 duos de mentors mentorés qui sont créés. Il y a une première rencontre qui est faite. Il y a minimum sur une année une rencontre mensuelle par binôme, donc où elles échangent de la manière elles décident vraiment ensemble de la manière de la forme que ça doit prendre. Donc soit c'est au téléphone, soit la plupart du temps pour en image des deux dernières éditions, elles se voient en direct, elles vont sur une exposition, elles vont voir les œuvres de l'autre ou le concert de l'autre, ou même elles font des concerts ensemble. Ça, c'est vraiment génial quand ça arrive. Donc voilà, c'est minimum une rencontre mensuelle en binôme. Ensuite, on a deux journées de formation collective qui sont obligatoires pour une question de cadrage, et c'est toujours en non-mixité, hein, bien sûr. Donc déterminer les rôles de chacune, faire des bilans aussi, et les retours sur les pratiques, et voir quels sont les besoins. Ensuite, on a trois ateliers collectifs et cercles de parole. Il y a aussi beaucoup cette question de cercle de parole, d'expression, en fait, de pouvoir avoir un endroit, une safe place, où pouvoir s'exprimer ensemble, et toujours en non-mixité, évidemment, avec différentes thématiques sur le développement de ses capacités d'agir, hein, notamment. Et on a ces fameuses deux rencontres, il y a deux rencontres professionnelles dont je parlais tout à l'heure, donc au Printemps de Bourges, d'ailleurs, qui se déroule en ce moment. Donc là, cette année... évidemment, on n'est pas dessus, mais ça sera pour la prochaine édition. Et il y a aussi le Mama Festival à Paris.
Et quels sont les prérequis pour les mentors et les mentorées?
Alors, pour être mentoré, donc déjà, il faut être une femme, habiter en région Centre-Val de Loire. S'engager bénévolement, être disponible. Okay. Donc ça, c'est vraiment ces trois sujets-là, c'est le tronc commun pour être mentoré et pour être mentor. Et ensuite, pour être mentoré, l'idée, c'est d'être débutante dans le secteur et d'avoir souhaité évoluer dans sa carrière ou créer une activité, par exemple. Mmh. Donc avoir vraiment un projet en tête, défini au maximum, si c'est possible. Après, le programme pourra aider à modifier ces idées qu'on avait pour la suite de notre carrière, hein, bien sûr. On n'est pas du tout en train d'évaluer la personne, hein, là-dessus.
Quand on dit avoir un projet en tête, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on veut faire après et non pas, monter un projet indépendant ou...
Voilà, c'est ça. Avoir à peu près une idée de ce qu'on veut, vers où on veut aller.
Ok, d'accord.
Se spécifier dans tel métier, monter en compétence sur telle chose. Et si on a, par exemple, envie de monter son asso aussi, comment monter son asso, d'accord. Quels sont les tips un peu pour pouvoir monter son projet là-dessus. Okay. Ou, sortir un album si on est musicienne. Voilà, il y a plein de possibilités. Il y a pas du tout, c'est pas du tout fermé là-dessus. Oui. L'idée, c'est vraiment juste de pas être... parfois, on a des moments de nos vies où on est complètement perdu et c'est pas du tout un problème. Le programme peut aussi aider là-dessus. Mais si on l'est complètement, ça va pas forcément être la bonne année. Peut-être recadrer son projet, essayer de voir à peu près vers où on veut s'orienter. Voilà, ça, c'est vraiment le prérequis. Essayer d'être clair sur ce qu'on attend aussi, vers où on veut aller à peu près dans l'idée. Voilà. Et pour le côté mentoré, donc on peut être soit étudiante, soit en poste, soit en recherche d'emploi, en volontaire en service civique ou être stagiaire, ça sera OK. Mm-hmm. On pourra être mentoré sans souci. À partir du moment où on peut trouver une mentor pour vous, vous pouvez être mentoré sans souci. Et surtout, il n'y a que 8 duos, malheureusement. Donc il y a toujours beaucoup de candidatures. On essaye... De permettre à toutes de pouvoir participer.
Et c'est obligatoire que ça soit un mentor et un mentoré.
C'est ça.
Que deux.
C'est ça, voilà, okay. Ça fonctionne. Vraiment, c'est une question de duo.
Oui.
Et par contre, évidemment, le collectif est aussi très, très précieux. Donc, elles sont, il y a 8 duos, mais ces 8 duos, quand elles se regroupent dans les fameux ateliers dont je parlais tout à l'heure, il y a cette importance, en fait, cette confiance qui se développe aussi au sein du groupe. Et parfois, une mentor peut aller aider une autre mentorée, sans avoir ces mêmes rendez-vous, bien sûr.
Okay.
Mais voilà, il y a cette entraide même entre mentorées. Enfin, vraiment, elles peuvent toutes s'aider. Voilà. Et donc, pour préciser, pour les mentors, donc, on est sur les mêmes prérequis. Donc, habiter en région Centre-Val de Loire, être une femme et avoir plus de 18 ans. Ça, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. et donc s'engager aussi bénévolement pour les fameux temps tout ensemble. Donc être évidemment disponible pour sa mentorée. Et donc, il faut aussi avoir le souhait de partager son vécu, son expérience professionnelle de la culture.
Est-ce qu'il faut une expérience exacte pour les mentors ?
Exact, au
genre
mentor.
Un nombre d'années, être expérimenté dans
non, non, pas du tout. Et non. Même, on s'aperçoit qu'il y a des femmes vraiment qui ont cette expérience et qui ont de quoi la partager vraiment et qu'elles ne se sentent pas légitimes à être mentor. Tout le temps, même l'année dernière, on a eu une personne qui, je ne sais pas, elle devait avoir 20 ans d'expérience, mais elle avait besoin elle se posait la question de savoir si elle voulait potentiellement monter sur un poste de directrice de lieu. Okay. Et donc, sa mentor était plus jeune qu'elle, en fait, au final. Wow. Donc, c'était vraiment très... Là-dessus, c'est vraiment une question de besoin aussi.
Oui.
Et d'adaptation. Est-ce que, voilà, on va pouvoir matcher vraiment ce fameux matching qui est très, très important. Okay. Voilà, il y a ce souhait de partager cette expérience qui peut varier de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus... L'idée, c'est vraiment d'avoir envie de transmettre et de pouvoir être en capacité d'aider, d'être disponible pour le faire. Et avec sincérité, c'est vraiment quelque chose, c'est une relation sincère qui va se créer. C'est pas juste, je t'aide pour un entretien. Ouais. Et puis, c'est vraiment quelque... dans l'idée, on aimerait... Enfin, ça se fait naturellement, mais c'est souvent des relations assez fortes qui se créent. Donc, il faut être disponible pour ça professionnellement et émotionnellement parce qu'il y a aussi une aide, et on l'a vu dans les cercles de parole... Il y a des partages hyper, hyper profonds, des choses qui ressortent, parfois même de traumatismes qui sont traités tout ensemble. Parce que quand on sait que la parole est libérée, il y a une écoute aussi qui se libère et ça fait vraiment du bien.
Oui.
Voilà. Et chose qui peut un peu remplir pour être mentor, c'est être ou avoir été en poste plusieurs années dans la culture. Donc vraiment, il n'y a pas un nombre d'années précis. Donc ça peut être un poste de direction, tout comme un poste de chargé de diffusion. Enfin il n'y a pas d'obligation particulière là-dessus. On veut vraiment que les femmes puissent se sentir légitimes à être mentor, parce qu'elles ont tout à fait la capacité de l'être la plupart du temps.
C'est vrai.
Et évidemment, il faut travailler, être en région Centre-Val de l'Eure. Donc, il faut avoir travaillé ou travailler actuellement en région Centre-Val de l'Eure.
Et est-ce qu'il y a des défis dans ce projet ?
Des défis que nous, on se lance en tant qu'organisatrice ou
peut-être.
Je pense qu'on l'a un peu évoqué. C'est vraiment ce pari du matching. Est-ce qu'il va fonctionner ? Donc ça c'est un défi. On n'a pas envie non plus que l'année soit gâchée pour la personne, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc l'idée c'est que ça fonctionne pour elle, qu'elle se sente bien et que par exemple je sais que l'année dernière ça pouvait être peut-être un défi qu'on l'a pas noté quelque part, mais quand on a par exemple une personne, une femme qui arrive et qui est en recherche d'emploi et qui a vraiment envie de s'insérer, qui fait ce programme pour essayer de trouver les solutions, trouver le poste de ses rêves, et quand ça arrive, on est vraiment super heureuse. Et l'année dernière, c'est arrivé. Je ne sais pas si c'est le poste de ses rêves, mais en tout cas, elle a un travail aujourd'hui. Oui. Et elle a l'air d'être assez épanouie dans ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a encore témoigné récemment sur un de nos webinaires pour présenter cette édition, avec vraiment le sourire aux lèvres. Donc je pense que ça, c'est une sorte de défi, une sorte d'envie qu'on a aussi, c'est qu'elle ressorte de là... super heureuse.
C'est ça l'objectif.
Exactement, et qu'elles puissent se sentir vraiment enfin légitimes parce qu'elles le sont de base. Mm-hmm. Mais pouvoir leur donner c'est bon, t'as la carte, t'as le diplôme de tu as le droit de faire ça. Parfois on a besoin de ce petit coup de boost dans la vie et ce programme est vraiment là pour ça aussi, je pense.
Oui, et là j'ai une question qui me vient dans la tête. Est-ce qu'il y a un certificat à la fin de cette formation, un diplôme ou
Alors ou non, parce qu'on n'est pas sur une formation ou une certification, on est vraiment sur un programme qui est fait à partir...
D'accompagnement plutôt.
Oui, c'est ça, exactement, c'est un accompagnement, on est plus sur la base du volontariat, donc vraiment du temps bénévole aussi qui est donné. On est sur une question de partage. Après, ça se valorise quand même, je pense, dans une expérience et dans un CV, parce que c'est quand même très fort de prendre ce temps-là. Autant en tant que mentor que mentoré, de prendre le temps de prendre du recul sur notre propre expérience, nos propres envies de travail, en fait, nos propres envies et besoins professionnels pour le mettre dans un collectif et agir ensemble pendant un an. Oui. Donc ça, c'est hyper valorisant de base. Voilà. Ouais.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut candidater pour cet accompagnement-là?
Alors, donc déjà, on peut postuler jusqu'au 10 mai 2024. Oui. Ensuite, toutes les infos, on peut les trouver sur le Facebook d'Affranchi, sur l'Instagram d'Affranchi, mais aussi sur le site de Métiers Culture. Et si on a vraiment un doute, on peut aller aussi sur le site de la Fracama qui relaie évidemment toutes les infos d'Affranchi.
Eh ben, merci beaucoup pour ce passage et pour ce partage d'informations surtout. À bientôt.
À bientôt, merci pour l'accueil.
Écoute ta fac, tous les jours de midi à 13h. Sur Radio Campus.
Vous êtes toujours sur Écoute ta fac avec Fatine et Marine. Comment c'est tu ça. Te sens?
Très bien.
Très bien, ouais.
D'émission,
ouais, très c'est bien. La fin d'émission. Tranquille. Oui. Alors, je voulais juste rappeler que demain, c'est l'apéro duo, vendredi et samedi, à partir de 19h. N'hésitez pas à venir au 108 pour faire la fête.
Venez nombreux, on vous attend.
y aura des DJ sets le vendredi et puis des concerts samedi, des émissions directes. Le thème, c'est paillettes. Venez tout pailleté, éblouissant.
Brillant.
Oui. On vous attend nombreux et nombreuses. Je vous laisse avec... Hiatus de... Alors, ah, mais j'en peux plus avec ces noms. Aïe. Tu le prononces comment? F-T-H-M-I-S-S. Ftmis? Ftmis? Je sais pas.
Tu l'as épelé au moins.
Ouais, c'est Hiatus. Et on se dit à la semaine prochaine.
Ciao,
à la semaine prochaine. Bye.